Bon, quand on regarde les tableaux COVID au Québec, on voit une constante depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui sont contaminés, des ados. On le voit là par le nombre de classes et d'écoles touchées, et aussi des jeunes adultes. Et puis ce matin, on arrive avec un sondage de l'Observatoire des tout-petits qui pose la question aux parents sur le niveau de stress. Par exemple, on leur demande « êtes-vous plus stressé que lors de la première pandémie, moins stressé? Qu'est-ce qui vous stresse en général? » Et quel est l'effet sur les enfants? Puis on se rend compte, pas une énorme surprise, que plus les parents sont inquiets, angoissés, anxieux, stressés, bien ça a un effet, évidemment, sur leurs enfants. J'en parle avec le docteur Jean-François Chicoine. Docteur Chicoine, bonjour.
Bonjour, Paul.
C'est pas étonnant de faire un lien, le parent anxieux parce qu'il a peur d'être malade, parce qu'il a peur de perdre son emploi, parce qu'il a un stress puis qu'il sent l'isolement, qu'un bébé va, puis pas juste un bébé, là, un enfant va percevoir ça de ses parents.
Parents anxieux, enfants anxieux, et ça vaut pour toutes les périodes hors COVID aussi. On sait très bien que le niveau de stress d'un parent va se communiquer à son tout-petit, qui est dépendant de lui. L'enfant, il regarde son parent comme une figure d'apaisement, d'attachement. Et puis, si ce parent-là est pas totalement disponible, parce qu'il a moins l'attention habituelle, il est un petit peu plus soupe au lait, il est un peu plus préoccupé par d'autres choses, ben l'enfant c'est un papier bouvard, il le ressent aussi. Donc ça vaut pour toutes les situations, et on sait qu'actuellement, ben il y a énormément d'éléments de stress pour la population en général, et il est évident que les familles, c'est d'ailleurs ce que dit ce sondage-là, sont capables, un peu plus que d'habitude, malheureusement, de communiquer le stress à leurs enfants. Et quand on parle de stress, c'est important de revenir là-dessus parce que il y a souvent une mauvaise compréhension des problématiques chez les enfants. On peut s'adapter comme enfant à une situation qui est pas habituelle, qui est moins agréable, et sans avoir non plus d'énormes problèmes de santé mentale entre les deux. Pour bien parler de résilience, de capacité d'émerger de l'adversité, comme pédiatre, il faut surveiller le développement de l'enfant. Alors, un enfant qui est résilient, c'est un enfant qui s'adapte, c'est un enfant qui se développe bien. Alors, dans le développement, il y a des aspects physiques, il y a des aspects cognitifs et il y a des aspects affectifs. Donc, effectivement, actuellement, on sent que de plus en plus d'enfants pourraient devenir colériques, pourraient pleurer plus et tout. D'où l'importance de maintenir ouverte pour les pédiatres les services de garde. Je m'adresse aux éducatrices du Québec ce soir à l'occasion de cette semaine des tout-petits et les écoles qui ont un effet structurant sur l'enfant, mais aussi, on le dit pas assez souvent, structurant sur toute la famille. Quand l'école, la garderie est disponible, on sait à quel point les familles vont mieux et à quel point les enfants peuvent être observés aussi par les éducatrices et les professeurs. Et ça, c'est extrêmement important pour nous comme facteur capable de réguler le stress des familles qui sont en plus privées de plus en plus de leur soutien habituel, par exemple les grands-parents.
Les grands-parents, puis les activités qu'on retrouve en périphérie de l'école, en périphérie de la famille, culturelle, sportive et autres. Mais il y a quelque chose aussi qui est soulevé dans ce sondage-là. Les parents disent que le point positif, c'est que ça a permis de favoriser de meilleures habitudes alimentaires avec les enfants, puis de passer plus de temps aussi avec les enfants.
Les familles qui sont déjà bien parties, on s'entend, hein? 70% des familles vivent pas du stress aussi. Alors celles-là ont pu peut-être avoir une réanimation de leurs valeurs, de leurs valeurs familiales, de leurs valeurs affectives, des capacités de faire à manger, de se retrouver et tout. On sait très bien que beaucoup de parents sont pris par leur travail et tout, puis c'est sûr que c'est un réaménagement pour eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que si les parents vont bien pour ce qui est des petits, les moins de 5 ans, puis aussi, dans une certaine mesure, les moins de 10 ans, si les parents vont bien, que l'école est structurante, que les services sont disponibles, parce que au printemps, Paul, les CLSC, les services psychologiques, sociaux, ils étaient pas là. Là, au moins, on sait qu'il y a des lignes, qu'il y a des façons, en fait, de pouvoir temporiser certaines choses. Si on arrive à cette structure-là, je pense qu'on va pouvoir traverser les prochains mois là, en attendant la nouvelle des beaux vaccins. C'est plus dur pour les adolescents en ce moment, parce que eux, ça fait partie de leur développement. Ils ont besoin de bouger, de rencontrer des gens et tout. Et pour eux, c'est vraiment très difficile en ce moment. Et chez eux, non seulement on a des problématiques développementales, du stress, des maux de tête, des troubles adaptatifs. J'ai parlé à des pédiatres hier de chez moi, mais aussi de Toronto, de Vancouver. Et on remarque que les consultations pour des petites problématiques comportementales commencent à augmenter, ce qui est très clair au niveau de la santé mentale. Ça, c'est la chose la plus claire à Sainte-Justine, c'est l'augmentation des troubles alimentaires, du double au niveau des consultations en externe et en hospitalisation.
Mais quand tu parles de troubles alimentaires, là, je vais donner des exemples que j'entends, puis je veux t'entendre à partir de ce moment-là là-dessus. Des jeunes, là, puis on parle d'ados, de jeunes adultes qui, par exemple, font l'école en ligne, le cégep en ligne, l'université en ligne, qui ont peur de pas avoir un diplôme valable, qu'ils perdent leur temps, ils sont toujours seuls, ils sont stressés, ils sont moins bons que l'an dernier. Tout ça mis ensemble, le fait que, pour beaucoup d'entre eux, il y en a pour qui ça va très bien, mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est stressant de vivre ça, puis ils se disent, la fameuse cote R, là, je vais échapper mon futur avec ça.
Ben en fait, les adolescents cherchent la bouée qu'ils peuvent, parce que ils assistent quand même à une sorte de désorganisation de notre société. Les rues sont vides, ils n'ont pas le droit d'aller à la bibliothèque, leur école menace toujours d'être interdite, alors que vers l'âge de 18 ans, ils ont le droit d'acheter de la drogue. C'est un peu déstructurant. Il peut y avoir une dissociation cognitive. Donc, ils s'accrochent à des éléments. Ils savent très bien, puis ça, les études le montrent, que l'école qu'ils reçoivent, là, que ce soit au primaire, au secondaire et tout, qui était déjà, qui traînait déjà de la patte dans certains milieux, ou dans certaines écoles, ou dans notre programme en général, que l'école qu'ils reçoivent, elle est moins stimulante, moins motivante, puis peut-être, et ils sont pas fous, moins valable que d'habitude. On estime actuellement que l'enseignement virtuel, ou un jour sur deux et tout, fait à peu près moins bien la job dans une fois sur deux. Et ça, c'est des textes en pédagogie, en éducation du monde entier qui nous le livrent. Donc, c'est pas pire, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais les adolescents, ils sont capables de voir que la qualité de ce qu'on leur offre, à mon sens, comme contexte de vie, comme contexte éducatif, est approximative. Ils comprennent la situation, ils peuvent s'adapter, ils comprennent des fois leur famille. Reste que c'est foutrement décevant parce que l'adolescence, ça ne passe qu'une fois. Six mois, un an, sans pouvoir sortir avec sa blonde le soir, c'est beaucoup. Que tout le monde qui m'écoute et qui sont pas certains que les adolescents contribuent aussi à leurs efforts se disent, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à 17, 18, 19 ans, sans voir ma blonde ou mes amis pendant un an? C'est terrible.
En terminant, quel conseil tu donnes aux parents? Là, je sais que ça peut varier selon l'âge de l'enfant ou de l'ado, mais si les parents à l'écoute ce matin avaient à retenir deux ou trois remarques, conseils, observations, ce serait quoi?
S'intéresser au temps présent, pas aller trop dans l'anticipation, parce que des fois, c'est le futur qui fait mal. Là. Est-ce qu'on va avoir ce vaccin-là là, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois? Donc, on s'intéresse, on prend une bouchée à la fois de notre journée ou de notre semaine, puis on essaie de vérifier pour voir si ça va bien pour nous puis pour les gens qu'on aime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer de se fier à tout ce qui est structurant habituellement. Il y a un intervenant peut-être, vous avez une grande famille, il y a la possibilité de sortir, d'appeler, de consulter. On entend assez souvent, je sais que ça a l'air tiède de dire ça, mais il peut y avoir ces éléments-là qui sont importants. Puis troisièmement, de se battre bec et ongles pour que l'école reste ouverte comme d'habitude dans la période de Noël. Moi, hier, on était plusieurs pédiatres, il y avait des gens de santé publique aussi, parce qu'il y a différents experts maintenant en pédiatrie, en santé publique, en psychiatrie, en gérontologie aussi. Je parlais à des gérontologues beaucoup pour la première fois de ma vie, qui ont aussi des points de vue sur ce qui se passe. C'est pas parce que tous et chacun, on se love puis on s'ajuste aux mesures gouvernementales qu'on n'a pas aussi des idées à différents niveaux. Mais hier, je vous écoutais tous, puis on avait l'air de Mr. Scrooge Stole Christmas. C'est que, bon, c'est bien beau, là, cette histoire-là de dinde avec une ou deux ou trois personnes, puis Noël, mais tu sais, ce qui est surtout important dans la vie d'un enfant, surtout, ben, c'est d'avoir éventuellement un cadeau, puis un Noël d'amour avec les gens très proches de lui. Mais pour le reste...
OK, là, Jean-François m'a posé deux questions bien précises, là.
Oui.
La fête de Noël, là, le gouvernement dit, ça reste à préciser, mais ça serait 3 familles, 10 personnes au maximum. Trouves-tu ça de l'allure?
Ben, la fête de Noël, c'est pas moi qui va déterminer
non.
ça. Je dirais que il peut y avoir une petite fête. C'est évident qu'au niveau des contacts, des rapprochements, etc., il va falloir être restreint et maigre, peut-être pas dans le repas. Mais je vois pas pourquoi ça serait juste une cible. Je trouve ça assez anxiogène d'entendre parler de Noël, on sauvons Noël, la bataille de Noël et tout. Pour la plupart des enfants, la bataille de Noël n'en est pas une. C'est être avec leur famille, pouvoir être content d'aller à l'école, puis avoir des cadeaux, puis voir le Père Noël derrière une vitre. Je trouve qu'il faut pas surinvestir dans cette fête-là.
OK. Là,
c'est très stressant.
OK. Pas la fête, mais la période de repos du temps des fêtes. Maintenant, la dernière question. Est-ce que, pour des raisons sanitaires, on prolonge, par exemple, le congé de Noël ou on retarde le retour en classe? Bref, on se donne 2 semaines de plus, pas d'école, pour dire on va se battre contre le virus, ça va être plus facile au retour.
Comme pédiatre, et je parle même pas personnellement, parce que j'ai parlé à plusieurs personnes, dont notre association, et dont même aussi la Société canadienne de pédiatrie, maintenant, qui commence à s'activer de plus en plus, là, nous, on ferait comme d'habitude pour l'instant. Le reste, ce sera des décisions de santé publique, mais on aimerait bien que l'école demeure structurante et puis valorisante pour toutes les familles.
Merci beaucoup. Bonne journée, Jean-François.
Merci, Paul.
Au revoir. Docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, fait le tour d'un paquet d'enjeux. On comprend pourquoi les gens aussi sont un peu plus anxieux, stressés. Puis quand vous regardez les causes, t'as peur d'être malade, t'as peur d'avoir quelqu'un près de toi qui est malade, t'es un peu tanné aussi du télétravail, puis des zooms, puis de tout ça, là. Puis t'as aussi besoin de voir, puis de parler aux autres. C'est la phrase, quand tu reçois le téléphone, est-ce que je te dérange? Non, je fais pas grand-chose de ce temps-là, comme beaucoup de gens, parce que on est pas mal limité. Et je rappelle donc qu'il y aura un point de presse 13h cet après-midi. Et là, il y a des décisions qui un jour vont venir. Pour ce qui est de l'école, on a compris que ce ne serait pas tout de suite, mais que ce serait bientôt. Puis les règles générales. Alors, ça fait le tour de ce dossier-là.